Père céleste, nous t'offrons ce sacrifice du temps du soir, ce rassemblement au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il nous a promis que si nous le faisons en son nom, qu'il serait présent au milieu de nous. Et ces promesses ne sont pas vaines, elles sont certaines. C'est pourquoi nous le croyons de tout notre cœur. C'est avec respect, crainte et tremblement que nous sommes assemblés, sachant que le grand Sauveur, notre grand Rédempteur, nous fait la grâce et l'honneur d'être au milieu de nous ce soir. Te prions de bien vouloir nous inspirer, de bien vouloir nous aider. Le Saint-Esprit promis que nous voulons recevoir ce merveilleux sceau que tu as promis, puisse-t-il venir et exercer son ministère parmi nous ce soir. Manifester chaque parole venant de ta part. Pardonne-nous nos offenses. Que ne soit pas un obstacle à ta présence parmi nous. Que nous ne soyons pas distraits par quoi que ce soit. Tous nos fardeaux, tous nos soucis, nous les avons déposés à ses pieds. Parce que lui s'en est chargé. Il les a portés à Golgotha. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lirons dans Actes chapitre 2. Versets 15 à 17. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ça, c'est un autre jour. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est de lire de 15 à 17. Vous pouvez vous asseoir. Juste, nous voulons intituler cela, C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est l'accomplissement d'une prophétie qui pouvait être mystérieuse au moment où elle a été prononcée. Et pendant tous les âges où cela ne s'était pas encore accompli, mais il y a des gens que Dieu a choisis pour que Dieu, non seulement il les a choisis, il les a équipés de manière à ce que le jour où cela se produit, que eux sachent que c'est bien l'accomplissement de la prophétie. Dans Matthieu 13, Jésus dit ceci à ses disciples, très important, il a longtemps parlé en parabole ce jour-là. Dans Matthieu 13, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est mystérieux pour eux. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a un groupe de personnes à qui cela est donné de comprendre ce qui est réellement de se passer. Une grande foule s'était assemblée ce jour-là. Vous pouvez voir cela au verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Nous voyons que le jour que les rassemblements, comme ce soir, aller écouter toutes ces choses, c'est très bien. Vous pouvez même assister à de grands miracles, parce que la foule le suivait justement, parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Ailleurs, ils ont mangé du poisson et du pain multiplié. Dans notre génération, l'on peut se réjouir des écureuils qui ont été créés. Mais très peu de gens sont équipés de manière à comprendre réellement ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et si vous êtes équipés et que vous reconnaissez cela, soyez heureux. Parce que c'est un privilège que vous avez que les autres n'ont pas. Comme dit Jésus, toujours dans Matthieu 13, verset 12, il dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. » Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ils ne peuvent ni entendre, ni comprendre. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, le fait de comprendre, d'entendre, de comprendre, c'est un privilège que les chrétiens seuls, les élus seuls, ceux que Dieu a appelés. Ici, il parlait aux 12, et encore, parmi eux, il y avait un démon. Mais il dit aux 12, dans Jean 6, 67, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Choisi, ça veut dire, il les a élus. Verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ils ont été équipés de manière à reconnaître que ce sont les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Je voulais parler des privilèges du chrétien, les privilèges que les chrétiens ont, mais si on doit tous les prendre, ça va nous prendre énormément, beaucoup, énormément de temps. Par exemple, dans le psaume 147, c'est un privilège de Jacob, fils d'Abraham. Verset 18, il nous a dit, il envoie sa parole et ils les font, ils font les glaces. Et ils les font, il fait souffler son vent, le vent, ce sont nos combats, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob. Si vous n'êtes pas Jacob, vous allez lire ces choses. Vous allez écouter ces choses, vous allez en entendre les prédications, mais vous n'en aurez pas la révélation. C'est un privilège que seul Jacob a. Or, il dit dans Ésaïe que Jacob est un de ses élus, et son élu. Ses lois et ses ordonnances, il révèle ses lois et ses ordonnances à Israël. Et pour ce qui est des nations, verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il t'amène à ça. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la Pâque qui va arriver pour eux. Ce dimanche, du moins, la commémoration, puisque nous savons que la Pâque a déjà été accomplie. La Belgique entière, je ne dirais peut-être pas le monde entier, mais une bonne partie du monde en parle. Mais la révélation que la Pâque a déjà eu lieu, c'est que ça nous a apporté seuls ceux qui ont reçu cette révélation d'en haut comprennent ce qui leur est réellement, ce que la Pâque leur a réellement apporté. Amen. Et Jésus, d'ailleurs, se réjouit lorsqu'il voit que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, reçoivent la révélation de ces choses. Hein? Nous voyons dans Luc, chapitre 10, il a envoyé les 70, n'est-ce pas? Verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et pour ceux qui ont compris, nous savons que Judas faisait partie de ces gens-là, mais pour ceux qui ont compris, Jésus va tressaillir de joie. Verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Quand vous avez la révélation des lois, des ordonnances, de la parole de Dieu, vous remarquerez que c'est toute une vie. Ce n'est pas seulement une succession de règles ou de préceptes où on ne peut pas faire ceci, on peut faire cela, où on ne doit pas faire ceci, on doit faire cela. Non, c'est toute une vie. Quand vous regardez ces apôtres, ces disciples, leur vie était normale. Ils ne paraissaient pas plus saints que les autres. D'ailleurs, les pharisiens le disaient. Ils disaient, vous êtes là parmi les gens de mauvaise vie et tout cela. Mais il y avait quelque chose en eux qui avait capté le fait que ce que Jésus enseignait, c'était les paroles de la vie éternelle. Et cela, c'est important. Nous sommes dans un temps où Dieu nous a promis, n'est-ce pas, un message qui nous préparerait à l'enlèvement. Quand on comprend bien le prononcé de cette prophétie, on se réjouit. Le message ne vient pas nous dire « Préparez-vous », ce n'est pas ça. Le frère ne dit pas que l'ange lui a dit qu'il sera porteur d'un message et ceux qui entendront vont se préparer. Non, c'est le message qui nous préparera. Parce que le message, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu accomplit exactement ce dont pourquoi elle a été envoyée. Autrement dit, ce n'est pas vous qui allez vous rendre prêt à être enlevé, c'est le message que vous avez reçu qui vous aura transformé, qui vous rendra apte si vous l'avez reçu. Si c'est juste que vous l'avez entendu, il ne faut pas être de ceux qui ont entendu, mais qui n'ont pas compris, qui ont des oreilles, qui n'entendent pas dans le sens de ce que Dieu veut qu'on entende. C'est la parole de Dieu qui a transformé les disciples. Si vous regardez avant la Pentecôte, ce que les disciples étaient, et dans le ministère de l'Esprit, comme dit Paul dans 2 Corinthiens 3, n'est-ce pas ? Dans 2 Corinthiens 3, il nous a, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consiste à ce qu'il nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau, et consiste à ce qu'il répande son esprit en nous. D'où l'importance de l'accomplissement de ce que Joël a dit, que nous venons de lire. Donc, c'est le début de cette nouvelle alliance, n'est-ce pas, où l'Église, comme dit le frère, il dit que l'Église est née à la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Mais donc, de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, c'était des gens qui écoutaient, ces pharisiens, ils connaissaient la parole. Où devait naître le roi des Juifs? Où ils ont tous répondu à l'unisson, à Bethléem. Ils savaient qu'il devait venir, qu'il devrait naître là-bas. Or, mais quant à savoir que cette étoile qui a annoncé sa naissance, quant à reconnaître cela, il n'y a que Dieu qui a permis aux mages de reconnaître cela. Amen. Et pour ce qui est de Siméon, le vieux Siméon, c'est l'esprit qui l'a conduit au temple. Il y avait plein d'enfants qu'on venait présenter ce jour-là au temple, même s'ils circoncirent. Mais Siméon a été conduit par l'esprit directement vers le Seigneur. C'est pourquoi c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël est un événement glorieux, est un merveilleux événement. Parce que sans lui, on a beau dire qu'on a reçu le message, l'enlèvement, ça va être compliqué. Parce que c'est lui qui va, c'est le Saint-Esprit qui va faire que le message soit en nous. Si vous aimiez vous habiller d'une manière incorrecte, quand ce message va travailler en vous, pas lorsque vous avez entendu, vous avez décidé, bon, maintenant je vais commencer à m'habiller correctement. Non. Quand l'Esprit lui-même va vous le révéler, vous n'aimerez plus les habits incorrects. Ce sera au fond de vous-même, vous n'aimerez plus ça. Vous vous poserez même la question, mais comment se fait-il que je m'habille ainsi? Vous voyez? Ça, c'est pour les habits. Et c'est un privilège que seulement quelques-uns, ce jour-là de la Pentecôte, ont pu comprendre l'importance du Saint-Esprit. On va continuer. Nous avons chanté ici où on suppliait Dieu, reçois mon sacrifice qui est sur ton autel. Et on demande à ce que Dieu puisse répandre son esprit, que l'esprit descende du ciel. Donc, si le ministère de la mort, verset 7, gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Il y a un ministère que l'Esprit lui-même est en train d'accomplir. Et l'Esprit, c'est lui qui va faire vivre ce message en vous. C'est un privilège que seuls les enfants de Dieu, que les élus ont. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens, chapitre 1er. L'apôtre. On va lire verset 3 à 4 et puis on va sauter. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ça, c'est le but de l'élection. Et parce qu'il nous a élus ainsi, nous serons saints, si nous sommes élus, nous serons saints et irréprochables devant lui. Et au verset 13, il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est une garantie. Quand je vous chante ici, quand je vous déclare ici que je serai enlevé, c'est grâce à la garantie que Dieu me donne, la garantie du Saint-Esprit. Je peux fauter, je peux trébucher, mais si ce Saint-Esprit est là, j'ai cette conviction, j'ai cette certitude que l'enlèvement c'est pour moi. C'est ce que Dieu fera avec les siens. Je n'ai pas fini d'énumérer les privilèges, mais il y en a d'autres. Mais avant cela, il dit, c'est le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Il dit dans Romains, je crois que c'est Romains 9, il dit aussi que Israël avait des choses que les autres n'avaient pas, que le monde n'avait pas. Les Israélites, on dit Israélites dans le cadre religieux, Israéliens dans le cadre civil. Dans Romains 9, 4, les Israélites, aux Israélites appartiennent l'adoption. Comme on l'a déjà dit ici, Dieu ne va pas adopter ailleurs. Il n'adopte qu'en Israël, parmi les fils d'Abraham. C'est là que Dieu adopte. Il n'adopte pas n'importe quels enfants. Dans Éphésiens chapitre 1, il parle aussi, il dit, en lui, il nous a adoptés. Donc c'est Pierre qui parle ce jour-là de la Pentecôte. C'est Pierre qui est un élu, certainement, non seulement lui, avec les 11. Seigneur, il est un élu parce que Jésus leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, n'est-ce pas? C'est moi qui vous ai élu. Dans Acte 2, Pierre n'était pas seul. Pendant que tout le monde religieux était au temple, il y a un groupe de personnes qui avaient le privilège de voir une prophétie qui était encore un mystère et qui est toujours encore un mystère pour ceux qui étaient au temple là, qui pourtant étaient religieux, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas ce qui se passait. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie au verset 14. Ceux qui ont compris cela, c'est Pierre et les 11, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Maintenant, tous ceux qui sont là ne vont pas recevoir cette parole, mais il y aura un groupe qui recevra. Amen. Et c'est ce groupe-là qui va vivre réellement la parole de leur temps. C'est ainsi que David dit dans le psaume 119, je crois verset 19, il dit, je sers ta parole contre mon cœur. Parce qu'il sait que c'est la parole qui fait ce travail. Dans Hébreux chapitre 1, recevoir le message ne veut pas dire aller dans une assemblée qui, en fait, dans une assemblée appelée une assemblée du message, c'est pas ça. Recevoir le message, c'est réellement recevoir la parole de Dieu dans le cœur, et cette parole doit produire ce dont pourquoi elle a été prononcée. Ça doit produire cela, mais sinon, ça ne dépend pas de vous. Il y a un Saint-Esprit pour cela. Celui qui a compris cela, sachant que lorsque la question a été posée dans Acte 2, après que Pierre ait parlé, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre dit, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Repentez-vous et soyez baptisés du Saint-Esprit. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardon, et vous aurez le don du Saint-Esprit. » Ce don du Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Cela vous permettra de vivre la parole exactement comme Dieu veut que vous la viviez. Et tout, Dieu fait tout par sa parole. Hein? Dans Hébreux chapitre 1, nous lisons ceci dans les trois premiers versets. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Oui, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints, dans les lieux très hauts. Aux Colossiens, il est dit, dans Jean, pardon, il est dit, par lui, tout a été fait. Par elle, tout a été fait par elle, par la parole, tout a été créé ainsi par elle. Et vous serez prêts par la parole de Dieu, la parole de cet âge. C'est cette parole qui vous permettra de vaincre les tentations de cet âge. C'est cette parole qui vous permettra de vaincre les attraits de cet âge. Cet âge où on court après beaucoup de choses, où on peut courir après la gloire, après je ne sais pas moi, après l'argent, après plein de choses. Et d'ailleurs, c'est un âge où les gens pensent qu'ils sont riches, mais là, Dieu dit qu'ils sont pauvres, malheureux, et ne le savent pas. Et il demande justement, je te prie, je te conseille d'acheter de moi un collier afin que tu oignes tes yeux et que tu voies. Parce qu'il y a plein de choses que beaucoup qui se disent chrétiens ne voient pas. Un chrétien, il voit cela. Ces 11, ils avaient un privilège. Ils avaient quelque chose que le monde n'avait pas. Nous avons vu cela mercredi. Le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, n'est-ce pas? Jean 14. De la même manière que cela leur a été donné dans Matthieu 13 de comprendre les mystères du royaume, eh bien, il y en a, non seulement ici, mais ailleurs aussi, où ce message est apporté, n'est-ce pas? Eh bien, il y en a à qui cela leur a été donné d'être enlevés. Amen. Et ils le seront. Jean 14. Et ceux-là, ils vont faire comme David. Ils voudront toujours, encore toujours, recevoir cette parole. Non pas comme une corvée, mais comme quelque chose qui les pousse vraiment à se préparer à ce grand départ. Dans Jean 14, verset 16, il dit, « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » C'est un privilège. Je voulais parler de ça ce soir, mais bon, nous allons juste nous limiter à ceci. Mais vous savez que le Saint-Esprit, les élus de Dieu ont le privilège, la capacité de lire l'écriture sur le mur. Quand Poutine vient avec ses missiles et qu'il montre ses missiles et il menace le monde entier, et que maintenant les Occidentaux semblent trouver qu'ils ont du retard, ils essaient de rattraper, mais on va construire des choses effrayantes, exactement comme Daniel l'a vu. Mais maintenant, qui peut voir ça? Seulement les élus. Les autres vont trembler. Combien ici, déjà ici en Belgique et même en France, beaucoup de gens tremblent devant Poutine. Ils ont peur que Poutine pousse le bouton. Mais vous, vous savez, vous avez ce privilège d'être dans la paix que Dieu donne. Pourquoi? Parce que vous savez quand ces choses vont arriver. Comment le savez-vous? Il vous a été donné de voir cela. Comment? Par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que lorsque Joël a prononcé cette prophétie, eh bien, cela devait susciter, n'est-ce pas, le bonheur de tous les croyants, de ceux qui croient en la parole de Dieu. Et Non seulement cela, vous devez le rechercher, le chercher à l'avoir. Le Saint-Esprit a cette faculté de vous faire reconnaître devant les choses qui se passent là au dehors. Le Saint-Esprit a la faculté de vous faire reconnaître le message de Dieu qui convient à cet âge. Ça va? Au-delà des poulets, au-delà de la viande de poulet que le frère aimait, mais vous savez tirer le message, cette parole dont vous avez besoin, qui va vous apprêter à être enlevé. Il vous révèle donc le jour que vous vivez, ainsi que le message correspondant. Et on disait, l'adoption est un privilège qu'Israël avait, que les Israélites avaient. Et dans Éphésiens, nous voyons que ce privilège, en fait, est destiné à tous les élus. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et le Saint-Esprit, c'est justement un esprit d'adoption. Quand Dieu vous le donne, cela montre que Dieu vous a adopté. Et il vous rend témoignage que vous êtes réellement enfant de Dieu. Vous ne vous réjouissez pas en vain quand on vous parle de l'enlèvement. Vous en êtes convaincu. Pourquoi ? Parce qu'il y a le témoin de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui atteste en vous que réellement cela vous est destiné. Oui. C'est ça. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est lui qui vous montre que vous pouvez appeler Dieu votre Père. Vous savez, si vous voyez un monsieur d'un certain âge par rapport à vous passé et que vous l'appelez Père, s'il n'est pas votre Père, il va vous trouver bizarre. Ça va? C'est la même chose. Si vous appelez Dieu votre Père, s'il n'est pas votre Père, vous allez être bizarre. Ce n'est pas parce qu'il nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux que tout le monde va venir prier ainsi. C'est destiné à ses enfants. Il n'a pas appris à la foule à prier ainsi. Il l'a appris aux disciples. Et il vous apprend aussi à prier ainsi, à dire notre Père qui est aux cieux. Cela ne doit pas être juste une récitation. Il faut que ça soit une conviction que Dieu est votre Père, quelle que soit votre condition, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez affamé ou rassasié. Ce n'est pas ça qui montre que, bon, que vous êtes, parce que vous avez de la nourriture en abondance, que vous êtes réellement fils de Dieu, ça peut arriver, comme le pauvre, comme Lazare, n'est-ce pas, qui est mort avec plein d'ulcères, et peut-être même le jour où il est mort, il n'avait pas mangé. Et lui vous atteste, cet esprit qui est tombé sur les disciples le jour de la Pentecôte, il vous atteste donc le message qui correspond à votre jour. Et il vous explique en quoi consiste votre jour, votre aujourd'hui. Il vous explique. Et c'est lui qui va venir vous dire, aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Et ça veut dire quoi, ça, le jour de grâce, hein? Nous le savons dans 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous savez, en envoyant le Saint-Esprit, Dieu nous montre sa détermination à sauver ses élus. Parce que sans ça, même ses élus seraient perdus. Tellement c'est difficile. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que Paul écrit ça. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Comme on l'a dit, c'est le jour où papa est content. N'est-ce pas? Ce jour-là, vous pouvez demander même un hélicoptère à papa. Il est tellement content, s'il en a les moyens, il va vous le donner. Vous voyez? Et je dis un hélicoptère, ça c'est dans le cadre naturel. Dans le cadre spirituel, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, ça va? Tout ce que vous demanderez en son nom, vous sera donné, vous sera accordé. Et aux Corinthiens, l'apôtre dit, personne ne peut prononcer ce nom-là si ce n'est par le Saint-Esprit. Si c'est par le Saint-Esprit que vous demandez cela, soyez certain d'une chose, vous recevrez ce que vous demandez. Si vous demandez à Dieu de vous aider à être prêt, parce que vous venez de lire, par exemple, dans Matthieu 25, ce sont celles qui étaient prêtes qui sont entrées. Vous vous mettez à genoux, Seigneur, fasse que je sois prêt ce jour-là. Dieu vous entend, vous a entendu. Si c'est par le Saint-Esprit, soyez sûr, ce jour-là, vous serez prêt. Et Dieu sait comment faire pour que vous soyez prêts. Il vous rendra lui-même parfait, irréprochable, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il faut demander. C'est dire que, donc, tel que vous êtes là, ou tel que je suis là, je préfère parler de moi, je peux me convaincre, me séduire moi-même, disant que je suis prêt, je serai enlevé. Or, je fais des bêtises. Et je sais que, en moi-même, je sais que je fais des bêtises. Mais c'est de l'auto-séduction lorsque je dis « je serai enlevé ». Mais, maintenant, si vraiment je veux, si je suis un élu, même si je me séduis, cette séduction-là, Dieu va m'ouvrir les yeux spirituels de telle manière que je verrai, ah, je ne suis pas encore là où je devrais être pour être enlevé. C'est le Saint-Esprit qui va vous montrer ça. Que ce qui vous manque, il va vous pousser à demander à Dieu. Ce que vous avez en excès, nous avons vu dans Romains chapitre 2, nous avons vu ça la semaine passée, c'est lui qui circoncit. La circoncision de l'esprit. Il enlève ce qui est charnel. Donc, c'est lui qui nous prépare. Avec la parole que nous avons. Et si vous aimez la parole de Dieu, c'est que l'enlèvement, c'est pour vous. Si vous aimez ce message qui vous prépare à être enlevé, si vous aimez cela, c'est que l'enlèvement est pour vous. Si vous ne l'aimez pas, si c'est juste un rôle que vous jouez, ben, vous continuerez à jouer le rôle. Dans Romains 8, il nous aide. Verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, là où nous sommes faibles. Amen. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Lui sait ce qui est convenable de demander dans nos prières, pour que nous soyons prêts ce jour-là. C'est pourquoi je suis heureux qu'il y ait un Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus l'a dit aux disciples. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Seuls ceux que Dieu a choisis peuvent voir cela. C'est leur privilège. C'est tellement un privilège qu'il dit aux Éphésiens, ce n'est pas un vain mot, il dit ceci, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a fait des faveurs. Il nous a favorisés. Ça va? Parce que ça veut dire que lorsque nous combattons, il nous a donné des armes spirituelles, lorsque nous combattons avec Satan, dans le combat que nous avons avec Satan, Dieu a rendu le combat inégal. Ça va? Il a rendu le combat inégal, c'est-à-dire, Dieu nous a favorisés. À tel point que un véritable élu de Dieu, rempli du Saint-Esprit, Satan ne peut oser s'approcher de lui. Parce que dans la bataille, Dieu vous avantage. Vous êtes avantagé. Si c'est un match, dans l'exemple que je donne souvent, c'est un match de football. L'arbitre du match, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand ses enfants font des fautes, Dieu ne voit pas les fautes de ses enfants. Il ne voit que les fautes des adversaires. Si vous jouez un match de football avec Satan, Dieu ne voit que les fautes de Satan. Les vôtres, il ne voit pas. Il ne siffle que contre Satan. Amen. C'est pour cela que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes avantagés. Donc, nous entrons sur le terrain, nous savons déjà que nous avons l'avantage, l'arbitre. Tout ce qu'il nous a donné comme arme est suffisant. Hein? Éphésiens 6, n'est-ce pas? Il y a les armes offensives, il y a des armes défensives. Il dit, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça ne doit pas vous effrayer. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bon, c'est un énorme avantage. C'est un privilège que nous avons. C'est un privilège que Dieu nous fait, n'est-ce pas? Hein? Je disais, si nous jouons un match contre Satan, mais regardez, dès le départ, Dieu a aimé, avant même qu'il ne soit né, Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. Vous voyez la manière dont Jacob a été favorisé pour recevoir la bénédiction du premier-né. Il a été favorisé. Dieu est venu le dire à Rebecca. Et Rebecca dit à Jacob, aujourd'hui, ton papa va bénir, eh ben, viens, c'est toi qui recevras la bénédiction. Ce qu'ils ont fait était faux. C'était une faute. Mais Dieu a favorisé Jacob. Dieu a favorisé Jacob. Dieu a permis que Jacob trompe son père. Parce que Dieu l'a favorisé. Si Dieu vous a favorisé, soyez sûr, la promesse, elle est pour vous. L'enlèvement, c'est pour vous. Amen. Oh, donc le jour de l'enlèvement, Dieu dira, c'est aujourd'hui. Satan sera défavorisé parce que lui, il essaye de vous retenir. Mais Dieu fera de sorte que vous puissiez partir. En tout cas, les siens partiront. C'est une certitude. Alors, ces derniers jours dont parle Joël, dans les derniers jours, c'est justement le temps favorable où nous pouvons, où Dieu est content. Il est content de quoi ? Il est content du sacrifice qui a été offert. Il est content du sang qui est sur le propitiatoire. Ce qui fait que, malgré que nous ne méritons pas ce que nous demandons, à cause de ce sang merveilleux qui le satisfait, Dieu nous accorde ce que nous lui demandons. Nous ne méritons pas ces choses, mais nous n'y allons pas avec nos mérites, nous y allons avec le mérite de Jésus-Christ. Et dans ces derniers jours, vous savez, c'est un jour, je crois que c'est mon frère Pépin qui dit ça souvent, qui disait ça souvent, je ne sais pas s'il continue à le dire, il disait, le vainqueur de l'Odyssée, mais il est glorieux. Et c'est vrai, parce que c'est un combat, un dur combat. Hein. Mais quand vous sortez vainqueur de l'Odyssée, mais vous êtes un crack, mais pas vous, c'est Jésus-Christ le crack en fait. Amen. Gloire à Dieu. Hein, Timothée, d'ailleurs Paul avertit Timothée. D'abord, Paul dit à Timothée, ceci dans 1 Timothée 4, pour ce que l'Esprit dit de dernier temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Flétrissure, c'est la pourriture, la décomposition. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Et quand il parle des derniers jours, l'apôtre il dit ceci, dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » C'est l'Esprit qui parle. C'est poussé par le Saint-Esprit que l'apôtre écrit cela. Est-ce que cela doit-il vous faire peur ? Non, n'ayez pas peur. Sachez ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais nous devons savoir que Dieu nous avantage. Nous sommes avantagés dans ce combat. Satan est déjà vaincu d'avance. Un véritable, on ne va pas dire véritable, ça ne sert à rien, c'est comme une répétition. Mais un élu de Dieu, il n'a pas peur du fait qu'il doit combattre contre des dominations. Il est appelé pour ça. Il sait que Dieu l'a équipé d'une arme. C'est pire que le Satan 2 de Poutine. Cette arme que nous avons contre Poutine, avec son Satan 2 et consort, mais c'est plus que la bombe atomique. C'est plus que tous les missiles hypersoniques. Gloire à Dieu. Et les élus sont équipés. Et vous êtes équipés. Vous êtes équipés que pour reconnaître votre jour. Le message, la parole qui vous transforme, vous êtes équipés. Dans chaque âge de l'Église, il y a eu ces vainqueurs qui étaient équipés. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont des oreilles, n'est-ce pas? Et qui ont entendu ce que l'Esprit dit aux Églises. Ce sont les vainqueurs. Ça va? Tandis que dans Matthieu 13, le Seigneur a dit, il vous a été donné à vous de connaître le mystère. Cela ne leur a pas été donné. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Mais vous avez des oreilles pour entendre. C'est un avantage que Dieu vous a donné. Amen. C'est pourquoi, remercions Dieu, soyons heureux de l'accomplissement de cette promesse. De cet esprit que Dieu donne, répand parmi les siens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions. Et nous sommes appelés à demander l'accomplissement de cette promesse en nous. Et n'abandonnez pas, si vous le voulez réellement. Demandez, vous aurez peut-être mal, peut-être ce coup-là qui vous a déboîté la hanche, c'est pas grave, demandez, ne lâchez pas, afin que cette promesse s'accomplisse dans votre vie. Père Céleste, te remercions ce soir pour nous avoir réunis. Et c'est vrai, nous sommes dans l'attente de ce jour glorieux que tu as promis, tu as dit que tu viendrais nous chercher. Tu nous as dit, tu souhaitais que là où tu es, que nous y soyons aussi. Ainsi, nous pourrons être avec toi éternellement, ô Dieu. Père Céleste, et tu nous as équipés, ô Dieu, d'oreilles pour que nous puissions entendre la parole qui nous transforme, la parole qui nous apprête, la parole qui nous circoncit. La parole qui vient, la parole qui nous prépare à l'enlèvement. Nous serons certainement prêts que cette parole le fasse, parce que nous ne nous en éloignons pas. Comme tu l'avais dit à Josué autrefois, cette parole de mon serviteur Moïse ne t'en éloigne ni à gauche ni à droite. Également en cet âge, nous ne voulons pas nous éloigner ni à gauche ni à droite de ce que tu as prononcé en cet âge, ô Dieu. Car nous savons que c'est par cette parole que nous tenons notre victoire. Oh, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sois béni Père, sois loué. Merci encore ce soir pour nous avoir assemblés. Bénis tes enfants. Tu connais les besoins d'un chacun. Tu sais ce que chacun a besoin pour pouvoir être prêt ce jour-là, pour ne pas manquer ce grand rendez-vous fixé. Oh Dieu. Et pour nos fautes qui sont nombreuses, te demandons de bien vouloir nous pardonner. Oh Dieu, que nous puissions continuer la marche. Oh Dieu, étant débarrassés de tout fardeau, car ayant déposé tout cela là au pied de la croix, étant débarrassé des soucis de la vie, ô Dieu, Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci encore, Père, que tu sois loué, que tu sois honoré. Nous remercions de nous avoir réunis ce soir. Maintenant, le temps de la réunion est terminé, mais cela ne détermine pas le temps où que nous devons passer avec toi. Nous pouvons rentrer, que tu rentres avec nous, Père. Ô Dieu, que nous puissions te demander, ô Dieu, que te supplier, ô Dieu, que cette promesse que tu as faite de répandre ton esprit sur toute chair, ô Dieu, que cela soit également notre lot, notre héritage ce soir. Sois béni, merci encore pour ce jour. Nous te remettons tous tes enfants et toutes les promesses qui sont là dans cette Bible, ô Dieu, puisse-t-elle s'accomplir en faveur de tes enfants, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de révélation, quoi qu'ils aient besoin, que tu leur accordes cela, pourvu que cela les tienne prêts pour ce jour glorieux de ta venue. Maintenant, raccompagne-nous dans nos maisons, au nom merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.